montrer l'exemple, c'est le Sénégal. En 1981, le président Senghor a démissionné et nous avons eu une alternance au fur et à mesure des années. Et dernièrement, en 2012, avec Macky Sall qui a pris le pouvoir. Au terme de mauvais élèves, évidemment, nous regarderons au niveau de l'Afrique centrale en premier le cas du Congo-Brazza, le cas de la RDC, le cas du Gabon. Nous pouvons également y ajouter le cas du Burundi. Sont tant d'exemples en fait à regarder. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, bon, on verra un peu au niveau du Niger. Évidemment, ce qui s'est passé récemment avec la Gambie est un autre exemple. Donc, je listerai en fait ces pays-là, dont les bons et mauvais élèves, par rapport à ce que j'ai dit. Merci.
D'accord. Mohamed Camara, votre avis, pourquoi les scrutins, de même que leurs résultats, bien entendu, sont régulièrement contestés sur le continent?
À mon avis, il y a au moins 5 grands facteurs qui déterminent cela. D'abord, il y a la prédominance des affiliations ethniques sur les programmes politiques des partis et aussi sur les projets de société des candidats, du fait que, les électeurs s'affilient à tel ou tel candidat, à tel ou tel parti politique, sur des bases purement ethniques, et les résultats de telles élections deviennent pratiquement de facto mal vus et donc contestés. Deuxième facteur, c'est le manque d'éducation citoyenne au niveau des électeurs. Les partis politiques se voient simplement comme des instruments de conquête de pouvoir et ne s'emploient pas à promouvoir l'éducation citoyenne de leurs membres et de leurs responsables, de sorte que la violence et l'enthousiasme mal digérés donc caractérisent les scrutins électoraux un peu partout en Afrique. D'un autre côté, vous avez parlé des conseils, des commissions électorales. Il y a un manque...
Oui, je vais revenir... Je vais revenir là-dessus tout à l'heure, professeur. Alors, Alfred Babeau, vous êtes l'auteur d'un article d'opinion plutôt provocateur publié dans Le Monde. Faut-il continuer d'organiser les élections présidentielles en Afrique? C'est le titre. Ça a dû choquer plus d'un défenseur de la démocratie en Afrique, j'imagine. Alors, résumez-nous rapidement les 3 points que vous mettez en avant pour soutenir votre argument.
Alors... Je peux aller dans le sens de l'auditeur qui vient, de l'invité qui vient à peine de parler. Et je dirais, je présenterai le dernier facteur qu'il a présenté comme l'un de mes premiers facteurs, c'est-à-dire ce que j'ai appelé l'inculture démocratique des classes politiques africaines. Et quand je parle d'inculture, c'est justement le fait que tous ces leaders politiques ou les partis politiques sont juste utilisés comme des instruments de conquête de pouvoir et ne participent pas à la formation démocratique de leurs militants. Résultat, beaucoup ne croient pas finalement au résultat des urnes ou bien ne croient pas au fait que le bulletin en lui seul peut changer les choses ou bien on ne croit pas qu'une élection débouche sur 2 résultats, c'est-à-dire on peut perdre comme on peut gagner. Donc ça c'est un des premiers éléments que je développe dans mon papier. Oui. L'autre c'est que je dis simplement que les élections en Afrique sont coûteuses, quoi qu'on dise pour des pays pauvres, elles sont très coûteuses et donc la logique aurait voulu que le résultat de ces élections coûteuses apporte un petit peu de développement ou de bon vivre aux populations. Mais finalement, on organise des élections coûteuses qui ne débouchent pas sur les résultats escomptés en termes de développement. Et pire, ce que ça produit, c'est des conflits, des violences et parfois un manque d'assurance puisque les régimes restent en place. Donc regardez un peu l'histoire récente, vous allez voir que depuis 1990, tous ces régimes ont joué avec les éléments de la démocratie elle-même pour pouvoir rester au pouvoir. Donc l'exemple de l'Afrique centrale est assez patent. Voilà. Et l'autre et dernier élément que je donne, c'est que si nous avons des violences, si nous avons une inculture démocratique, ça débouche effectivement sur des contestations qui ne finissent pas. Voilà. Donc, C'est pourquoi je pense que, moi, il faut réformer, il faut réformer le système des élections présidentielles.
On en parlera tout à l'heure. On en parlera dans la deuxième partie des solutions. Ngemia Lengui, certains observateurs qui parlent d'une certaine démarcation entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Mm-hmm. Pensez-vous effectivement qu'il y a des différences entre ces deux régions et comment les expliquez-vous?
Ben, moi, je dirais que la démarcation devait être plutôt entre les anciennes colonies françaises et les anciennes colonies anglaises. Ouais. Si vous remarquez en Afrique de l'Ouest, par exemple le Ghana, la Gambie, le Nigeria, les pays anglophones, il y a quand même une sorte de démocratie qui fonctionne normalement. Pendant que les pays, les anciennes colonies françaises, c'est là où nous avons des problèmes. Donc, en Afrique centrale, ça c'est un autre cas parce que, bon, si nous parlons par exemple du centre de l'Afrique, il y a la RDC, il y a le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, bon, le Congo-Brazzaville, bon, c'est une ancienne colonie française, donc ça tombe dans le même paquet. Donc, je dirais que dans les pays francophones, il y a un problème avec la démocratie. C'est alors on pourra en discuter quelles sont les raisons.
Absolument. En fait, à l'Ouest, nous avons vu, par exemple, la fermeté de la CEDEAO sur Yahya Jammeh pour qu'il quitte le pouvoir en Gambie, n'est-ce pas? Alors que de l'autre côté, le président Pierre Nkurunziza du Burundi a, lui, eu le soutien d'un bloc régional au moins. En fait, il y a eu la médiation tanzanienne, si je ne m'abuse, envoyée par l'East African Community, a défendu sa légitimité.
On l'a laissé,
n'est-ce pas? Voilà. Alors, est-il également question du rôle que peuvent jouer les instances sous-régionales, Jean-Claude Zamba?
Ben absolument. Je pense qu'il y a plusieurs approches par rapport à la réglementation de la démocratie. Et quand on regarde déjà, on arrive à sectionner en fait par rapport aux différentes régions. Vous avez au niveau du nord de l'Afrique, la Ligue arabe qui a eu beaucoup à dire par rapport au conflit en Égypte ou en Libye. Au niveau de l'Afrique de l'Est, vous avez la même chose par rapport au Burundi et ce qui se passe au Soudan. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, vous avez également la CEDEAO. Mais au niveau de l'Afrique centrale, par exemple, vous avez la CEMAC qui a quand même été assez absent par rapport aux différents conflits. Le seul conflit où on a vraiment vu la CEMAC y mettre de tout son poids, c'est ce qui se passe en Centrafrique. Donc nous pensons que les différentes organisations ont un rôle à jouer, notamment en commençant par l'ONU, en commençant par l'Union africaine, l'Union européenne. Maintenant, on va aller aux différentes régions, par exemple la CEMAC, et voir comment on peut utiliser pas mal de personnes qui sont en possibilité de faire quelque chose, d'avoir des discussions, des médiations dans ces pays-là. Mais je ne pense pas que les pays seuls pourront arriver à juguler le problème qui se pose à leur niveau.
Mohamed Camara, très souvent nous voyons des partis d'opposition dans certains pays qui montent au créneau pour rejeter les résultats et réclamer l'annulation du vote. Parfois peut-être c'est trop facile de tomber sur les pouvoirs, sur les gouvernements du jour. Donc pensez-vous peut-être que certains d'entre parmi ces partis d'opposition qui font preuve de démagogie?
Oui, effectivement, il y a des partis politiques qui font montre de démagogie parce que parfois les candidats malheureux n'ont pas le courage de reconnaître leur défaite légitime et ils cherchent à ne pas perdre leur base et donc accusent toutes les institutions qui malheureusement manquent d'intégrité et de liberté, que ce soit les cours constitutionnels ou autres, les commissions électorales. Donc quand vous avez le bas qui blesse un peu partout, il y a là quand même une certaine raison pour ces, ou en tout cas une raison perçue par ces partis politiques de monter au créneau, même si ils ont perdu légitimement. Mais dans certains cas, par exemple, il y a bien une raison pour ces partis-là de se plaindre quand c'est évident, quand c'est prouvé qu'il y a eu fraude électorale à tous les niveaux.
Non, certainement, très souvent, ils ont raison, mais parfois, il nous faut faire l'avocat du diable, n'est-ce pas? Alors, justement, parlant de l'avocat du diable, en ce moment, les yeux sont rivés sur la République démocratique du Congo. Le pays se prépare à un nouveau report de la présidentielle, mais les Congolais veulent les élections. Nous le voyons d'ailleurs cette semaine. Les Congolais continuent de descendre dans la rue. Comment toute cette situation va-t-elle se terminer, d'après vous, Nguemiya Alenghi?
Mais moi, je crois que la RDC, le Congo, Kinshasa, c'est un cas vraiment sans précédent. C'est un cas spécial. Parce que ce qui se passe au Congo, ça ne s'est jamais passé. C'est pour cela qu'aujourd'hui, même au Conseil de sécurité, l'ambassadrice des États-Unis est montée au créneau que ça doit prendre fin. Pourquoi? Parce que la personne qu'on appelle Joseph Kabila, qui est là depuis 2001 au moins, ne veut pas organiser les élections. Donc, c'est pour cela que c'est un problème si les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe réellement. Je me suis étonné, je suivais les débats au Parlement européen. Il y a un Français, Jean-Luc Schaffhauser, du nord de la France, qui est monté au créneau et qui a dit ce que Colette Braeckman du soir de la Belgique avait dit en 2001. Il y a aussi Honoré Nguanda Nzambo, l'ancien chef de renseignement du Congo qui est maintenant en exil en France, en Europe, l'avait dit. Il y a Karel De Gucht, l'ancien ministre des Affaires étrangères de la Belgique, qui l'a dit en 2005. Il y a Peter Verlinden, un journaliste belge de la TV flamande BRT, et finalement il y a François-Michel Gonneau, le français, qui aussi l'a dit en 2012, qu'ils ont découvert que Joseph Kabila, c'est un Rwandais, qu'il n'est pas congolais. Bon. Et il vient de dire
ça. Mais en fait, ce que je voudrais vous demander, donc, quand Kinshasa invoque le problème de sécurité,
c'est justement
vous, vous vous dites que bon, c'est un prétexte.
Non, c'est un prétexte. Oui. C'est le député européen qui vient de le dire. Il a dit que d'ailleurs, c'est pour cela qu'on continue de tuer les gens au Congo, par exemple au Kasaï, et les Nations Unies viennent de découvrir 80 fausses communes dans seulement la région du Kasaï. Alors ils disent qu'il faut qu'ils traitent ce problème de savoir pourquoi ça continue comme ça. Et c'est question d'infiltration, d'occupation, d'identité ou quoi que ce soit. Sinon, le cas du Congo, de la RDC, c'est un cas vraiment à part. Alors les Nations Unies sont en train de s'en occuper.
Certainement, on cherchera les commentaires à Kinshasa là-dessus. Je vous propose maintenant des nombreux commentaires postés sur la page Facebook de VOA Afrique. Théadoum Hosanna Killer, Mundu Tchad. En Afrique, les échéances électorales sont juste une tromperie. Tout le monde sait d'avance les résultats. Les dirigeants au pouvoir gagnent souvent les élections. Cela démotive le peuple. Et Alphonse Gongolou, Mouéné Ditou RDC, les Africains perdent confiance en leurs processus électoraux car leur volonté exprimée dans les urnes n'est toujours pas respectée. Ouais. Et voilà. N'allez nulle part ailleurs, Washington Forum revient après cette courte pause.
Vous et nous, c'est votre émission.
Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous.
Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis.
Tout ce qui nous passionne et dont se rapproche.
Racontez-nous vos histoires.
Et nous vous raconterons les vôtres.
Vie africaine.
Vie américaine. Apprenons les uns des autres. La vie,
vous
et nous, ensemble.
Jacques Aristide, de retour avec vous dans Washington Forum. Nous parlons de la très faible confiance des Africains dans leurs élections. Pourquoi ce manque de confiance? C'est la question que VOA Afrique a posée dans ce micro-trottoir réalisé en Côte d'Ivoire.
Je pense que les Africains n'ont pas confiance en leur système électoral parce que d'abord, c'est des jeux qui sont déjà joués depuis longtemps. Voilà, je pense que l'Occident a déjà mis la main dessus, surtout quand c'est au niveau international. Et quand c'est au niveau suprême, je parle de la magistrature suprême, voilà, de la présidence. On a l'impression qu'ils ont déjà un pouvoir qu'ils veulent imposer.
Quand on fait des élections, on met des personnes qui sont crédibles, qui pensent à la population, qui sont indépendants, voilà, et qui pensent aussi au bien-être du pays. écart comme cela, je pense que on va éviter beaucoup de choses.
Voilà, on n'a pas confiance dans le système électoral parce que ça n'existe pas. Le système électoral en Afrique n'est pas indépendant. Le président qui est en place ne veut pas partir. Il prend ses propres amis, ses propres connaissances, des gars qui peuvent lui donner un nouveau mandat et les mettre dans le système électoral. Donc le système électoral n'existe pas.
Lorsque les élections ont démarré, hein, c'est l'ère démocratique. Et donc, il fallait élaborer des textes fondamentaux, il fallait rédiger des constitutions. Là encore, c'était des problèmes. Celui qui est là essaie de rédiger des textes en sa faveur. Ensuite, il fallait encore rédiger le code électoral. C'est la même chose. Il fallait établir la liste électorale. Les listes électorales aussi sont bâties en fonction, hein, disons, pour arranger celui qui est là.
Des Ivoiriens au micro de VOA Afrique. Et nous retrouvons nos invités sur ce plateau à New York, l'historien et analyste politique Ngemiya Alenghi, de Connecticut, l'analyste politique Alfred Babo, du studio de la VOA Washington, Mohamed Camara, du département des études africaines à Howard University. À ses côtés, Jean-Claude Zamba, secrétaire général de l'Alliance pour la démocratie en Afrique centrale. Voilà, pour revenir sur l'étude d'Afrobaromètre, elle indique que beaucoup d'Africains ne font pas du tout confiance à leur commission électorale. On en parlait un petit peu tout à l'heure dans la première partie, Jean-Claude Zamba. Comment peut-on rectifier le tir ?
Ben, je pense qu'il y a plusieurs éléments. La première des choses, c'est d'abord que les gens arrivent à se rendre compte que leur vote compte. Et je pense que quand vous regardez dans un pays, généralement un pays non démocratique, vous vous rendrez compte que la majorité des votes ou des choix qui sont faits par le haut, c'est-à-dire par les leaders politiques. À aucun moment on ne donne, par exemple, au peuple la possibilité d'élire ses gouverneurs. Même au niveau de la députation, vous avez toujours le parti, vous savez encore d'en haut, qui fait le choix de qui va représenter en fait ce parti dans certaines circonscriptions. Donc moi je pense que, hein, comme disait mon confrère ici Mohamed, vous avez le côté éducation. Il faut éduquer les populations sur leurs droits civiques. Vous vous rendez compte que c'est quand les gens arrivent seulement à la faculté de droit dans certaines universités de nos pays qu'ils commencent à comprendre en fait c'est quoi leurs droits. Alors que ce serait plutôt à la base, que ce soit au niveau de l'enseignement, au lycée, on devrait commencer déjà à donner aux gens la compréhension de leurs droits et la possibilité déjà à certains niveaux de responsabilité que ce peuple puisse se rendre compte que leur voix compte. Donc je pense l'élection des maires, l'élection des gouverneurs, l'élection au niveau de la députation, le choix des personnes qui doivent les représenter dans différents organismes. Au moment où ce peuple se rendra compte effectivement que son vote compte, ce peuple commence à prendre conscience de la force que ce peuple a. Également, vous avez le côté justice. Oui. Si la justice n'est pas équitable, vous vous rendrez compte que lorsqu'on vole mon vote et que je n'ai pas la possibilité, alors que le vote, quelque part, c'est un droit. C'est un droit de l'homme, c'est un droit. Ce n'est pas un privilège, c'est un droit. Alors quand on vole mon droit et que j'essaie de me plaindre au niveau soit de la Cour constitutionnelle ou des différentes justices et qu'on me dit je n'ai rien à dire, vous vous rendrez compte que le système, comme disait Dr Yalenghi, est formaté en fait pour utiliser ces organes démocratiques à leur avantage.
Oui, d'accord. Mohamed Camara, vous-même, tout à l'heure, vous avez évoqué le Sénégal. La Commission électorale nationale autonome, la CENA sénégalaise, est-elle l'exemple à suivre?
Je dirais oui, parmi d'autres. La CENA au Sénégal a fait montre beaucoup de fois d'intégrité citoyenne et de professionnalisme. Et je crois que cela est surtout fondé sur la représentativité de la population, des différentes forces politiques en jeu au niveau du système de fonctionnement de la CENA. Parce que vous verrez au Sénégal, l'éducation citoyenne dont a parlé mon collègue tout à l'heure, est une plateforme très importante où les organisations religieuses, les organisations de société civile, les partis politiques, les agences d'État, les institutions de l'État elles-mêmes participent à l'éducation des citoyens. Et donc la CENA n'a aucun choix sinon que d'obéir à la loi et d'obéir à la citoyenneté sénégalaise.
D'accord. Alfred Babeau, le temps passe très vite malheureusement. Alors vous écrivez donc qu'il faut remettre en question le modèle politique imposé par l'Occident, trop coûteux en argent et en vie. Que proposez-vous à la place? Brièvement.
Oui, je dirais d'abord que je pense que là où les processus sont plus ou moins parfaits, les exemples qu'on a été cités tout à l'heure, là où ça marche, je pense que ce sont des éléments tels que la société civile aujourd'hui qui sont les garde-fous, qui sont ceux qui veillent à l'évolution positive du processus, de sorte qu'on débouche sur une véritable consolidation de la démocratie dans ces pays. Mais là où ça ne marche pas, moi je dis qu'il faut retourner simplement à l'origine des commissions électorales. Les commissions électorales sont nées dans un système, dans une époque où on avait besoin d'organes transitoires. Donc à l'origine, les commissions électorales étaient des organes de transition et qui n'avaient pas vocation à perdurer. Donc pour moi, l'une des solutions radicales vers lesquelles moi je vais, je dis simplement qu'il faut se débarrasser des commissions électorales. Elles ne sont même pas indépendantes, d'ailleurs. Donc, en plus, elles comprennent...
faire tout un débat là-dessus, oui.
Elles intègrent les candidats.
D'accord.
Donc, okay. On peut être candidat et
voilà. Je vais m'adresser maintenant. Oui, professeur Babeau. Malheureusement, Ngeniya Alenghi, des élections transparentes et justes sont évidemment le gage d'un système démocratique. Alors, comment imaginez-vous un système idéal adapté à nos sociétés africaines?
Voilà. Et Barack Obama avait dit aux Africains, quand il est passé à Accra, au Ghana, il a dit que l'Afrique a besoin des institutions fortes, mais pas besoin des hommes forts. Le peuple africain sait ce qu'il a besoin, il connaît ses droits. Voilà. Donc l'Afrique a besoin des institutions fortes. Malheureusement, ces dictateurs, ces gens qui se pérennisent au pouvoir pendant des trentaines d'années, et en collaboration avec ceux qui les supportent, par exemple en Europe ou en Asie ou aux États-Unis, on les laisse se pérenniser au pouvoir. Donc l'Afrique a besoin des institutions fortes, pas des hommes forts. Voilà, ça, c'est ce qui doit changer à l'Afrique.
D'accord. Alors, rapidement, on va proposer deux autres commentaires Facebook à nos téléspectateurs. Hassan Omar Boulalegash, Djibouti. Les élections en Afrique sont souvent des moyens pour tromper la communauté internationale et faire un semblant de démocratie. Pour y remédier, en fait, il dit qu'il faut un changement de la mentalité de nos concitoyens et une pression palpable sur nos politiques africains. En premier lieu, il faut geler les avoirs et restreindre les voyages. Et Jean-Claude Tsendrebeogo, Ouagadougou, Burkina Faso, nos dirigeants africains ont très mal interprété les systèmes électoraux occidentaux en leur faveur. Beaucoup d'élections en Afrique sont influencées par certains présidents occidentaux. Mmh. Et voilà, vous partagez cet avis, Yalangui.
Exactement.
Voilà. Donc, alors, pour terminer très rapidement, Jean-Claude, donc vous pensez qu'il y a des solutions qui sont là et s'il y a une certaine volonté, éventuellement on peut vraiment faire quelque chose pour donner aux Africains plus de confiance dans la transparence et la légitimité de leur scrutin?
Absolument. Quand je regarde la nouvelle constitution du Ghana ou du Kenya, le Ghana a utilisé la constitution de 1957, 1960, 69, 79. Pour remettre en fait la légitimité et la souveraineté du pays au peuple. Donc c'est ce que le peuple décide en fait qui va. Et je pense que l'éducation du peuple, pour que ce peuple se rende compte de son pouvoir au niveau d'une élection, est très importante. Deuxièmement, je pense que la société civile a une place très importante. Et lorsque vous regardez dans certains pays, vous regardez comment est traitée la société civile, vous vous rendrez compte si ce pays est soit démocratique ou pas démocratique. L'autre élément, c'est le quatrième pouvoir, donc l'accès aux médias. Si les sociétés civiles, les partis de l'opposition n'ont pas le même accès aux médias que par exemple la majorité présidentielle, vous vous rendrez compte que les dés sont déjà joués. Donc l'accès aux médias, qui est le quatrième pouvoir, est très important. L'éducation du peuple, mais s'assurer aujourd'hui, je suis souvent étonné avec toutes les technologies qui existent, qu'on ne puisse pas mettre en place des systèmes d'élection qui soient vraiment non seulement transparents, mais sécurisés. C'est très possible. Donc vous vous rendez compte que c'est juste
bien,
une volonté.
C'est vous qui mettez point final à ce Washington Forum. Un grand merci à nos invités, merci à nos collègues de Washington et New York, et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous une fois encore cette semaine. C'était Jacques Aristide. Je vous dis à très bientôt. Take care.
En plus de nos programmes sur FM Ontario, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
Jamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants.
Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.